Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
Quatorze civils tués et d'autres portés disparus, des maisons et un centre de santé incendiés, c'est le bilan encore provisoire d'une attaque armée dans la nuit de ce jeudi à Lomé. Nous sommes en Ituri. Cette attaque serait l'œuvre des miliciens Mai Mai Yira, d'après l'armée. Des élèves du lycée Lubusha, situé à plus de 80 km de Lubumbashi, sont venus manifester dans les rues de Lubumbashi pour dénoncer l'exploitation minière qui s'est faite à proximité de leur école. Pour ces élèves, leurs vies sont en danger. Situation confuse à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Leur état pris par la ville de Mbandaka pour son développement. Nous en parlons dans cette édition avec Albert Bombito, ancien ministre du Budget et des Finances et porte-parole de la notabilité de la province de l'Équateur. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. En territoire de Béni, 14 civils tués et d'autres portés disparus, des maisons et un centre de santé incendiés, c'est le bilan encore provisoire d'une attaque armée dans la nuit de jeudi à ce vendredi à Lomé. C'est une commune rurale du secteur de Rwenzori dans le territoire de Béni. L'armée attribue cette attaque au milicien Mai Mai Yira. Marc Marofimbo pour des précisions.
L'attaque de Lomé est intervenue aux environs de 22h heure locale. Les anciens armés ont d'abord lancé un assaut sur le centre de santé de la 20e communauté évangélique au centre de l'Afrique Seca. Trois malades et un infirmier ont été tués et la structure sanitaire incendiée, comme le témoigne le docteur Louis Kassereka, médecin traitant du centre de santé de Lomé.
Avant de la structure, il y a aussi des malades nés dans les chambres. Certaines personnes ont été emportées par les assaillants et on ne sait pas vraiment la destination des autres. Les uns un soldat retrouvé, malheureusement, il y a un infirmier calciné aussi dans la chambre des gardes. C'est compliqué.
La société civile locale parle des 10 autres civils tués par balles et armes blanches, ainsi que de maisons incendiées au quartier Mwangaza, périphérique du centre de santé de Lomé. Les porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Cranor des FRDC attribuent cette attaque au milicien Mai Mai Yira, dirigé par un certain Kambale alias Dido. Selon le capitaine Anthony Malouchai, 3 assaillants ont été tués et un autre capturé par l'armée. Beni, Marc Marofi, Radio Okapi.
Toujours Nord Kivu, un nouveau couvre-feu sécuritaire est instauré de ce vendredi à Boulongo et Lomé, deux communes rurales du secteur de Rwenzori dans le territoire de Beni. La mesure est prise par l'administrateur du territoire de Beni en vue de faire face à la multiplication des attaques de miliciens Mai Mai et des rebelles de l'ADEF dans ces deux entités. Selon le colonel Charles Euta Omeonga, ce couvre-feu qui va chaque fois commencer à 19h jusqu'à 5h du matin, heure locale, vise à sécuriser la population contre ces attaques. Il permettra également aux forces de défense et de sécurité de détecter les assaillants qui s'infiltrent parmi les civils, indique-t-il. Pendant ce temps, territoire de Rutshuru, des combats ont été signalés depuis 5h du matin ce vendredi dans le village Ruseke, près de Tamugenga, groupement de Bouéza. D'après les sources locales, la population de Ruseke et Tamugenga s'est réfugiée à Bouhuri. La situation reste fragile dans toute la zone de Djomba, Bouéza et Kisigari, indique un responsable coutumier. Les FARDC maintiennent le contrôle de l'axe Goma-Rutshuru. Sifamaguru nous fait le point de la situation.
Les affrontements de ce vendredi matin à Ruseke ont duré quelques heures avant de se calmer dans la matinée. Des sources locales affirment que les FARDC contrôlent toujours Tamugenga. Des témoignages concordants font également état d'un afflux de déplacés qui se sont installés dans les écoles, les églises et dans les familles d'accueil. Ces populations demeurent sans assistance à Bouhuri, près de Kako sur la nationale numéro 2, Goma-Rutshuru. À Rumangabo, une accalmie s'observe également depuis ce matin après les affrontements d'hier jeudi. Plusieurs sources convergent sur l'occupation de certaines localités environnantes de Kabaya et Rumangabo par les rebelles du M23. La population de ces localités du groupement Kisigari s'est dirigée vers Rumangabo Centre. Goma Sifamaguru, Radio Okapi.
Et puis les acteurs de la société civile du groupement Manzia dans le territoire de Lubero appellent au déploiement de l'armée dans les villages de Sebwe et Itendi. En effet, depuis quelques jours, il s'observe des cas de meurtre des civils par des présumés miliciens Mai Mai dans ces villages et environs. D'où cet appel des acteurs de la société civile à une présence des FRDC dans la région pour mettre fin à cette situation. On écoute l'un d'eux qui a requis l'anonymat au téléphone de Grâce Hamzati.
Au chef-lieu, par exemple, du groupement Mandia, les forces loyalistes s'y étaient déjà installées. Quelques jours après, même pas un mois, ils étaient repartis. Et cette position est déjà occupée par d'autres gens. À dépit de toutes ces situations, des habitats des autres endroits au groupement, bien sûr, nous recevons des alertes sur les mouvements de va-et-vient des hommes porteurs d'armes. Et toutes ces situations nous inquiètent beaucoup. Parce que dans le groupement Mandia, il n'y a aucune position militaire. Donc, la population n'a pas la sécurité confiante. On est en train d'assister au cas des tueries. À Itente, tout le monde le sait, depuis les temps passés, on y connaît toujours des cas d'assassinat et qui ont la tendance le plus souvent de viser les agents de l'État. Il y est déjà mort par assassinat un agent de la police et un agent de la FARDC il n'y a pas longtemps.
Pendant ce temps en Ituri, la situation humanitaire reste préoccupante en dépit d'une certaine accalmie observée dans certaines entités depuis la signature de l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités par le groupe armé CODECO-IRDPC. Dans le rapport hebdomadaire de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA à Bunia, plus de 4000 personnes sont arrivées dans le territoire de Mahagi ces derniers jours après avoir fui dans une des poches, un sac, une maison, etc. Les atrocités de CODECO dans leurs milliers. En revanche, les humanitaires saluent le retour de plus de 20 000 personnes dans plusieurs localités du territoire d'Irumu. Pour leur venir en aide, OCHA rassure qu'il mobilise les acteurs humanitaires pour une réponse urgente. Martial Kizabiamongo.
Selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA à Bunia, il y a 2 semaines, 2 milliers de familles sont arrivées précisément à Ndawe, Gengire et Mungumu dans les territoires de Mahagi. Il s'agit de personnes qui avaient fui les attaques de groupes armés en avril et juin dernier dans le village d'Engalima, dans les territoires de Djougou. Ces déplacés vivent sans assistance. Par contre, dans les sites du territoire d'Irumu, la coordination des affaires humanitaires note avec satisfaction les retour d'environ 21 400 personnes dans les localités de Bamande et Bandiboli. C'est à la suite de la relative accalmie observée depuis mai dans cette région. Toujours selon la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Bunia, plus de 2000 personnes se sont déplacées vers Biakato centre dans les territoires de Mambasa à la suite de l'attaque de rebelles des ADF le 26 juin dernier dans la localité de Mboki. OCHA indique enfin que la communauté des humanitaires se mobilise activement pour une réponse urgente à ces personnes vulnérables dans la région. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Les élèves du lycée Lubushia, situé à plus de 80 km de Lubumbashi, ont fait le déplacement de la capitale du cuivre pour manifester leur mécontentement à cause de l'exploitation minière qui s'est faite à proximité de leur école. Pour ces élèves, leurs vies sont en danger à cause notamment des détonations des explosifs utilisés par les entreprises minières qui brisent leur quiétude et endommagent les bâtiments de leur école. Jean Gantou.
Les élèves de cette école étaient accompagnés dans cette démarche par d'autres élèves des écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi. Elles arboraient des calicots portant des messages tels que « Pour la cause de Luisha, nous ne nous tairons pas. Sacrifier l'éducation au profit de l'exploitation minière est intolérable. » Ces élèves l'ont fait savoir au vice-gouverneur du Haut-Katanga qui a promis de transmettre leur doléance à l'autorité provinciale pour qu'une solution idoine soit trouvée. Les manifestants sont aussi allés déposer leur mémo à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga.
Nous sommes venus lancer un cri d'alerte. Il y a des explosifs, on échoue même de dormir, même d'étudier. On veut que ça puisse cesser.
Le président du comité des parents d'élèves de cette école n'en décolère pas.
On ne peut pas sacrifier l'éducation des enfants à cause d'une société qui bientôt va quitter le pays et qui va devenir notre État.
Ces élèves étaient soutenus dans leur démarche par Mgr Emmanuel Mumba, le chargé des actions sociales à l'archevêché de Lubumbashi, qui appelle aussi au respect du code minier.
Les Chinois ne cessent de nous répéter dans les négociations que la faute appartient à l'État qui nous a vendu cette concession. Mais cela devrait se faire dans l'ordre, en respectant aussi notre code minier. Ils sont à 30 mètres près du lycée, parce que s'ils continuent à exploiter, les élèves sont en danger. Donc, ne pouvons pas nous taire en train de regarder la situation pourrie.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Autre nouvelle, dans la province de Lomami, remis ce jeudi à Kabinda du bâtiment de l'école primaire Mabouiboui par le vice-gouverneur. Les travaux de construction des 6 salles de classe de cette institution ainsi que du bureau administratif du directeur ont été financés par les fonds des Nations Unies pour l'enfance à hauteur de près de 48 000 dollars américains. Des explications avec Esther Ndalafina.
L'école primaire Mabouiboui dans la province éducationnelle de l'EPST Lomami 2 est actuellement revêtue d'une nouvelle robe. Le nouveau bâtiment est composé de 6 salles de classe et d'un bureau administratif du directeur de cette institution. Les travaux de construction ont été financés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF a aussi équipé cette institution avec 150 bancs pupitres. Au cours de la cérémonie, le directeur de cette école a remercié l'UNICEF pour ce geste. Bernard Mbika a par ailleurs indiqué que son institution fonctionne depuis bientôt 13 ans dans un bâtiment en état de délabrement très avancé. Certains élèves étudiaient en dessous des arbres. Par manque de bons pupitres, tous les élèves devraient amener soit un tabouret ou un tronc d'arbre pour s'asseoir. Docteur Séraphin Petello, chef de bureau de l'UNICEF Mbujimaï, a réitéré l'engagement de l'Agence du système des Nations Unies d'accompagner le gouvernement dans les secteurs de l'éducation. Le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba a invité les bénéficiaires de faire bon usage de ces bâtiments. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Et puis, lancement hier jeudi à Kisangani de la campagne « Pas d'école sans banc ». La cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi. Il a remis symboliquement au gouverneur de province ad intérim 500 bancs à titre symbolique sur un total de 1500 bancs disponibles. Jacques Moukonkolé.
Pour le ministre de l'EPST, il ne s'agit pas de la distribution des bancs aux écoles de la Tchopo, mais plutôt de la sensibilisation et la conscientisation des autorités provinciales et les gestionnaires d'écoles par rapport à leurs responsabilités. Ceux-ci doivent récupérer cette campagne et se rassurer qu'il n'existe plus d'écoles sans bancs.
Notre système éducatif a déjà été décentralisé. La construction, la réhabilitation et même l'équipement de nos écoles, c'est une prérogative des provinces. Et vous allez voir avec les provinces et les autres, à la fin de chaque mois, qu'il se rassure que les chefs d'établissement financent la fabrication, même des 5 bancs à la fin de chaque mois.
De son côté, le gouverneur intérimaire, Maurice Abibou Sakapela, promet de pérenniser cette campagne jusqu'à atteindre l'objectif assigné.
Nous sommes une province d'abord à vocation forestière. Il y a l'exploitation de bois d'art. Nous n'allons pas manquer les bancs. Ça doit être une préoccupation pour le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial va récupérer cette campagne pour que demain, on ne parle plus d'une école sans bancs dans la province de la Tchopo.
Ces bancs fabriqués par le Fonds de promotion de l'éducation et de la formation avec la main d'œuvre locale sont destinés au préalable aux écoles qui se trouvent dans les besoins, a souligné Tony Mwaba. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit. Interdiction de consommer la viande des animaux domestiques comme le mouton et des autres rongeurs dans la zone de santé de Massimanimba. Cette mesure est du ministre provincial de la Santé d'Ikwilu, Dr Bena Mutuyi. Il la justifie par la découverte depuis quelques jours des signes cliniques de la maladie à Ponkemox chez un mouton dans cette zone de santé de la province d'Ikwilu qui actuellement est touchée par l'épidémie de Monkeypox dans plusieurs territoires, notamment celui de Massimanimba. Le point avec Irène Bouma.
C'est au niveau de l'aire de santé de Padimba, située à près de 65 km de la cité de Massimanimba, que ce mouton présentant tous les symptômes de la maladie à Monkeypox a été identifié. Il s'agit d'une maladie virale qui se manifeste notamment par des éruptions cutanées se concentrant davantage sur le visage et au niveau des extrémités comme les paumes des mains et les plantes des pieds. Pour le ministre provincial en charge de la santé du Kwilu qui alerte, la consommation de la viande des moutons et des autres animaux domestiques par la population de la zone de santé de Massimanimba est prohibée jusqu'à nouvel ordre. C'est là pour se protéger contre les monkeypox en attendant les analyses approfondies, a expliqué Dr Bena Mutuyi.
Les études montrent que ce sont des petits rongeurs qui peuvent être l'agent transmissible de cette maladie chez l'homme. Maintenant qu'on a eu à déceler un mouton avec les signes de monkeypox, tout ce qu'on peut demander à la population, c'est d'éviter de consommer d'abord tous les animaux rongeurs, aussi les animaux domestiques. comme les moutons.
Signalons que cela fait déjà plusieurs semaines que la province du Kwilu est touchée par l'épidémie de monkeypox. À ce jour, elle compte dans l'ensemble 3 cas confirmés et 10 cas suspects, selon le ministre Ben Amoutoui. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Blaise Compaoré est arrivé à Ouagadougou jeudi 7 juillet en début d'après-midi dans un vol privé affrété par les autorités ivoiriennes. Un retour rendu possible par la junte au pouvoir officiellement pour des entretiens avec le président de la transition, le lieutenant-colonel Damiba et les anciens présidents du pays. Mais Blaise Compaoré a été condamné en avril à la prison à vie pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Après près de 8 années d'exil, son retour sans être écroué fait donc polémique.
L'invité.
Albert Bombito, ancien ministre du Budget et des Finances et porte-parole de la notabilité de la province de l'Équateur, est notre invité dans cette édition. Il réagit sur la situation confuse à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Albert Bombito apporte également de l'éclairage sur la dernière déclaration de la notabilité de l'Équateur. L'ancien dignitaire de la Deuxième République estime que 62 ans après, la vie de Mbandaka ne devrait pas connaître un tel retard de son développement local. Albert Bombito s'entretient avec J.R. Lungembo. Suivez.
Albert Bombito, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lungembo.
Vous avez déclaré que votre province, qui compte 7 territoires et la ville de Mbandaka, est victime, je vous cite, d'une interprétation confuse de l'équilibre géopolitique. Pouvez-vous être plus explicite par rapport à cette déclaration?
Oui, en fait, la confusion vient du fait que la province de l'Équateur actuelle est le résultat donc du démembrement de l'ancienne grande province de l'Équateur, qui avait 5 districts. Et ces 5 districts sont devenus aujourd'hui des provinces autonomes, avec parmi elles la province de l'Équateur, mais alors nouvelle formule, redimensionnée. Mais il se fait que, depuis l'arrivée des nouvelles autorités, nous avons le sentiment que quand ils nomment des personnalités issues d'autres provinces, n'est-ce pas donc démembrées, elles croient que la province de l'Équateur est représentée également, n'est-ce pas donc, par ces personnalités. Ce n'est pas le cas. Nous sommes une province autonome. Certes, nous sommes la province mère. Mais nos enfants ont grandi, ils sont devenus autonomes. Alors, mais cela ne veut pas dire que si on doit nourrir les enfants, on ne nourrit plus les parents. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a une confusion dans l'interprétation. Et, n'est-ce pas donc, nous recourons au pacte républicain pour interpeller les autorités du pays sur ce problème.
Dans les réseaux sociaux, certains acteurs d'autres provinces considèrent votre déclaration comme une incitation à la division de l'ancienne province de l'Équateur. Que répondez-vous à cela?
La province a déjà été démembrée. Elle a été divisée en 5. C'est une réalité. Pourquoi vouloir la ramener à la fiction? La division est consacrée par la Constitution. Ce que nous nous demandons, c'est tout simplement qu'on nous reconnaisse nos droits à l'intérieur de cette division. C'est une démarche républicaine. S'ils étaient de bons républicains, ils doivent soutenir notre démarche.
Vous réclamez votre part de gâteau, apparemment.
Mais pourquoi pas? S'il y a un gâteau républicain qui doit être servi à tout le monde, il faut qu'on nous donne notre part.
À l'Est, par exemple, c'est du pays à guerre, mais on sent qu'il y a cet élan de développement, surtout à Goma, si nous allons, les opérateurs économiques locaux, ils ont mis des paquets et ils évoluent. Mais pourquoi la notabilité ne peut pas s'engager dans cette démarche-là?
La notabilité peut s'engager dans cette démarche. Vous savez, la province de l'Équateur, c'est une des provinces qui a le plus souffert de la zaïrianisation. Nous sommes une province essentiellement agricole. Depuis la zaïrianisation, l'activité économique de l'Équateur a été tuée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'activité à l'ouest du pays était organisée autour d'un trafic régulier et programmé qui était le trafic de l'Onatra. C'est vraiment une économie, ce qui vous parle. Beaucoup de gens ne comprennent pas très très bien, n'est-ce pas, donc la relation entre la mort de l'économie, par exemple, à l'ouest du pays et la mort de l'Onatra. Les deux phénomènes sont liés parce que toute l'économie était organisée autour de cette structure qui organisait un trafic, j'ai dit, régulier et programmé. Cela veut dire que vous faites une activité, par exemple, à Mbandaka ou bien dans un territoire à Ingende ou bien à Bikoro. Vous savez que dimanche à 15h, le bateau de l'Onatra va passer, donc vous pouvez évacuer vos produits. Mais aujourd'hui, on le fait au petit bonheur de la chance. C'est cela qui tue. L'État organise un minimum d'infrastructures. Ça, c'est vraiment, n'est-ce pas donc, la raison, n'est-ce pas donc, de ce manque de créativité que vous déplorez à l'Équateur.
On ne peut pas terminer cet entretien sans pour autant parler de ce qui est d'actualité. Vous avez, dans votre déclaration, parlé d'une complicité de toutes les hiérarchies en rapport avec la situation de l'Assemblée provinciale. Qu'en est-il au juste?
L'Assemblée provinciale de l'Équateur n'existe plus. parce qu'il y a eu une situation où 6 députés provinciaux ont commencé à défenestrer, donc invalider 14 autres députés provinciaux. Ils ont mis en place un bureau, donc dans des conditions vraiment qui sont vraiment les plus irrégulières possibles, vraiment sans rapport avec la loi. La cour d'appel de Mbandaka qui a été saisie, elle est restée muette. La cour de cassation ici à Kinshasa saisie, elle est restée muette. Le ministère de l'Intérieur, donc, qui est le ministère des tutelles, il est resté muet. Mais comment pourriez-vous expliquer autant d'irrégularités sans complicité? Voilà pourquoi nous parlons de complicité, donc, de toutes les hiérarchies. C'est parce qu'aucune hiérarchie, n'est-ce pas, donc, n'a levé son petit doigt pour mettre fin à cette situation de désordre.
Albert Bombito, merci de nous avoir accordé cette interview.
C'est moi. Et je salue en passant tous les auditeurs de Radio Okapi, que je félicite parce que Radio Okapi nous fait beaucoup de bien. Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.